Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de la dentelle française et en particulier les savoir-faire uniques des denteliers du nord de la France. Pour cela, je vous invite à me suivre au musée des dentelles et broderies de Caudry, où j'ai pu explorer les secrets de la création et de la fabrication de ce qu'on appelle la dentelle Leavers, un type de dentelle qui a fait et fait encore la renommée mondiale de la ville de Caudry dès le 19e siècle. Dans ce podcast, vous pourrez également retrouver l'interview que j'ai menée avec Renée Pierrard, une pétillante rebrodeuse qui nous raconte son métier passion pour ennoblir de broderie les délicates pièces de dentelle tout juste fabriquées. Le musée des dentelles et broderies de Caudry, dans le département du Nord, est un lieu surprenant et passionnant pour qui aime la mode, la création textile ancienne et contemporaine, mais aussi et surtout l'histoire, qu'elle soit industrielle, régionale ou sociale, et le patrimoine artisanal et vivant. Installé dans un bâtiment de briques rouges à l'architecture typique de la région, un bâtiment construit en 1898 pour accueillir l'industrie dentelière de Théophile et Jean-Baptiste Carpentier, le musée retrace aujourd'hui l'histoire et l'ensemble de la chaîne de fabrication de la dentelle Leavers, une technique industrielle qui a fait et fait encore la renommée de la ville pour sa créativité et sa haute qualité. Pour rappel ou pour information, c'est d'ailleurs à Caudry qu'a été produite la dentelle de la robe de mariage de Kate Middleton en 2011. En effet, si, des pièces de lingerie les plus délicates aux robes de haute couture les plus somptueuses, la dentelle fait partie des textiles incontournables que nous connaissons toutes et tous, les techniques de tissage ou de tricotage sont cependant nombreuses et souvent propres à un pays ou une région spécifique. C'est le cas ici, dans la ville de Caudry, qui, au XIXe siècle, s'est spécialisée dans la fabrication de dentelles dites « leavers », en référence aux métiers sur lesquels elle est tissée, mais aussi dans l'ennoblissement de cette dentelle par la broderie. Au fil du temps, ces savoir-faire locaux et traditionnels se sont érigés en un véritable art textile, reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, visiter le musée des dentelles et broderies de Caudry, c'est d'abord s'immerger au cœur de ce patrimoine industriel créatif caudrésien. Le parcours invite ainsi à comprendre la chaîne de fabrication de la dentelle Leavers, ainsi qu'à découvrir les différents métiers et savoir-faire qui intègrent chaque étape de sa réalisation, depuis sa conception jusqu'à ses finitions et ennoblissements. Lors de ma visite à Caudry, j'ai pu en particulier explorer les techniques traditionnelles de broderie sur dentelle grâce à Renée Pierrard, une rebrodeuse et démonstratrice du musée qui pratique ce métier depuis l'âge de 14 ans et que j'ai eu la chance d'interviewer pour les Carnets d'Igor. L'interview est à retrouver à la fin de ce podcast. Pour ma part, la visite s'est poursuivie par l'exploration des archives textiles du musée qui m'ont été ouvertes spécialement et qui reflètent toute la richesse créative de l'industrie dentelière caudrésienne. J'ai ensuite traversé les siècles pour voyager vers le futur grâce à Moving Lace, la dentelle en mouvement. Cette exposition temporaire, parrainée par la maison de couture On aura tout vu et réalisée par le biais de LabLace, le laboratoire créatif du musée, eh bien cette exposition temporaire, Moving Lace, la dentelle en mouvement, plonge les visiteurs au cœur de l'innovation. Jusqu'au 26 août 2024, elle présente ainsi les silhouettes des lauréats du premier concours organisé en 2023 auprès d'étudiants en stylisme autour de l'utilisation de la dentelle dans la création mode contemporaine. Si vous venez à Caudry, je vous invite à prendre le temps de parcourir cette exposition, une exposition qui vous surprendra certainement par son audace créative. Mais avant de partager avec vous ma visite et la découverte du musée des dentelles et broderies de Caudry, je vous propose de commencer par un point histoire. Après un rappel des origines historiques et géographiques de la dentelle française, je vous inviterai à découvrir plus particulièrement l'histoire, les métiers et les secrets de fabrication de la dentelle Leavers, autour de laquelle s'est développée la ville de Caudry au XIXe siècle. Une ville et une région qui restent aujourd'hui encore un pôle important pour la création dentelière, puisque ces 6 entreprises toujours en activité produisent à elles seules 75% de la dentelle Leavers mondiale et exportent plus de 80% de leur production vers les marques de haute couture et de prêt-à-porter de luxe internationales. Alors, commençons comme souvent par un peu d'histoire, ça tombe bien, c'est l'une de mes passions. Sans entrer dans une longue rétrospective historique de la dentelle, il faut savoir que ce textile délicat et ajouré, composé d'un fond tissé sur lequel sont noués ou entrelacés un réseau de fils dessinant des motifs, eh bien ce textile raffiné qu'est la dentelle est historiquement d'abord réalisé à la main avant d'être mécanisé au XIXe siècle. Alors, dès le XIIIe siècle, une technique de dentelle à l'aiguille venue d'Orient gagne l'Occident. Mais on admet qu'il faut attendre quelques siècles encore pour que son utilisation se fasse plus large et régulière. Ainsi, c'est au XVIe siècle, en Italie, à Venise, sur l'île de Burano en particulier, et dans les Flandres, que serait née la dentelle d'ornement. Appelée alors passementerie, elle est importée à la cour de France par la future reine Catherine de Médicis dans la première moitié du XVIe siècle. Rapidement nommée dentelle, en référence aux petites dents que forment ses bords, ce tissu très raffiné est avant tout un produit de luxe et un signe extérieur de richesse pour la haute société d'alors. L'une des premières mentions de dentelle date ainsi de 1545, dans la description du trousseau de mariage de la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre. Mais à l'époque, la dentelle est encore italienne et elle est surtout quasiment exclusivement réservée aux hommes qui, pour certains, en abusent allègrement. Il faut alors attendre le XVIIe siècle pour que les femmes commencent à s'en emparer, mais aussi et surtout le XIXe siècle pour que Napoléon Ier en décrète un usage uniquement féminin. Quoi qu'il en soit, c'est sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil qui, je le rappelle, a régné entre 1643 et 1715, eh bien, c'est sous son règne que les premières manufactures dentelières françaises voient le jour, à l'initiative du principal ministre du roi, Jean-Baptiste Colbert. On voit alors fleurir des manufactures royales de dentelle à Alençon, la capitale de la dentelle à l'époque, mais aussi au Puy-en-Velay ou dans le nord de la France, comme en Normandie, en particulier à Caen et à Bayeux. Très vite, par leur délicatesse, les dentelles françaises séduisent les cours européennes. Toujours réalisées à la main par des dentelières à l'époque, leur production est croissante jusqu'à la Révolution où le secteur est mis en péril. Il faudra attendre la mécanisation de la fabrication dentelière pour qu'au XIXe siècle, la production française se relance et se développe considérablement, notamment dans les régions du nord de la France. Nées de cette industrie dentelière florissante, des villes comme Calais ou Caudry vont ainsi prospérer et s'agrandir jusqu'à la Première Guerre mondiale. Par la suite, plusieurs facteurs vont conduire à plusieurs crises plus ou moins fortes de l'industrie dentelière française. La crise des années 1930 d'abord, la Seconde Guerre mondiale ensuite, puis le développement de dentelles bon marché, moins qualitatives ou créatives mais aussi moins chères dans les années 1950-1960, ou encore le changement d'habitude, par exemple l'arrêt de l'obligation de porter des mantilles à l'église, ou l'évolution vers une mode moins habillée. De nombreuses entreprises font ainsi faillite ou se regroupent face aux difficultés, mais dans le nord du pays, la créativité et le raffinement des dentelles de Calais-Caudry, ainsi labellisées et protégées dès 1958, eh bien, cette créativité et ce raffinement des dentelles de Calais-Caudry n'ont rien perdu de leur réputation. Les industriels vont alors se recentrer avec succès sur une production ultra qualitative à destination des marchés du luxe, de la haute couture et du prêt-à-porter haut de gamme. Et aujourd'hui encore, la dentelle française reste ainsi une référence dans le monde entier par la richesse de ses créations et l'excellence de ses savoir-faire à la fois traditionnels et innovants. Parmi les villes emblématiques qui perpétuent ces métiers d'exception, Caudry est l'un des pôles géographiques les plus importants de l'industrie dentelière française. Sa spécificité? La dentelle Leavers, une technique unique que ces industriels sont les seuls à encore maîtriser et qui fait leur renommée internationale. Avant d'aller plus en détail sur cette dentelle Leavers, son histoire et ses procédés de fabrication, comme nous invite à le faire le musée des dentelles et broderies de Caudry, je vous propose de revenir rapidement sur l'histoire de cette industrialisation de la dentelle. Avant toute chose, il faut ici distinguer la fabrication à la main de la fabrication mécanique et industrielle. Concernant la dentelle faite main, comme ce fut le cas jusqu'au XIXe siècle, on recense deux techniques. La technique de la dentelle à l'aiguille, d'abord, qui nécessite un parchemin que les dentelières, équipées d'une aiguille et d'un fil, suivent pour réaliser le fil de trace par-dessus lequel on va venir tisser le réseau qui créera les motifs. Parmi les dentelles à l'aiguille célèbres, on trouve principalement la dentelle d'Alençon et la dentelle de Venise ou de Burano. La seconde technique, la dentelle au fuseau, permet, elle, grâce à des petites bobines appelées fuseaux, de croiser les fils sur un support textile appelé carreau, afin de créer, toujours d'après un dessin réalisé sur papier, un tissage de motifs délicat et résistant. Parmi les dentelles au fuseau, on trouve la dentelle de Chantilly, la dentelle de Flandre ou de Hollande, celle de Cluny ou du Puy-en-Velay, la dentelle de Valenciennes ou encore la dentelle blonde née à Caen au XVIIIe siècle. Alors, je ne détaille pas ici toutes les caractéristiques, mais vous avez le détail dans l'article dédié à la dentelle sur mon site lescarnetsdigor.fr. Par ailleurs, il existe bien d'autres types de dentelles réalisées à la main, que ce soit à l'aiguille comme au fuseau, mais elles ont un point commun, leur réalisation est très complexe, fastidieuse et coûteuse en temps humain. Cependant, tout va changer au XIXe siècle avec l'apparition de la fabrication mécanique de la dentelle. Cette industrialisation du secteur a en effet permis de réaliser de plus grandes quantités de matière en un moindre temps, avec une main-d'œuvre plus réduite. Ici, il s'agit de reproduire les gestes des dentelières sur des machines, et donc à une échelle industrielle, grâce à des métiers à tisser spécialement adaptés. C'est en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, que les premiers métiers chaîne et trame font leur apparition, imitant les techniques manuelles des tisseurs. Alors avant de continuer, savez-vous ce qu'est la technique de chaîne et trame? En réalité, il existe deux façons de réaliser un textile, le tissage et le tricotage. Le tissage est ni plus ni moins l'enchevêtrement de fils verticaux, appelés les fils de chaîne, plus solides, et de fils horizontaux, appelés des fils de trame. Sur les métiers à tisser en chaîne et trame, les fils de trame viennent dessiner des motifs en croisant les fils de chaîne, en alternance, par-dessus et par-dessous. Il existe plusieurs techniques de chaîne et trame qui créent différents types de tissus. Je ne vais pas toutes les détailler ici, vous pouvez en retrouver dans mon article toujours. Quant au tricotage, lui, il réside dans l'entremêlement de boucles de fil appelées mailles à l'aide d'aiguilles pour créer ce qu'on appelle un tricot dont les propriétés intrinsèques d'élasticité et de souplesse sont particulièrement hautes. Mais revenons à la dentelle. À partir des métiers chaîne et trame, l'anglais John Heathcoat invente en 1808-1809 un métier dit de tulle bobin. Révolutionnaire, le système de chariots et de bobines du métier bobin, B-O-B-B-I-N, permet de tisser, donc ce métier bobin permet de tisser ensemble, selon un procédé mécanique complexe que je ne vais pas détailler ici, un fil de chaîne vertical avec deux fils de trame obliques qui, eux, se croisent pour produire à la fin, c'est ça qu'il faut retenir, ce qu'on appelle du tulle. Le tulle, c'est globalement un textile ajouré sans motif, très régulier et résistant, je pense que tout le monde en a déjà vu ici. Au-delà de son utilisation telle quelle pour la mode, ce nouveau type de tulle servira aussi de support pour la réalisation de la dentelle. C'est là-dessus qu'on va pouvoir repasser des fils pour créer des motifs. Dans les années 1810, alors que l'Angleterre connaît une crise économique, notamment à cause du protectionnisme français imposé par Napoléon Ier qui interdit l'importation de textiles anglais, pardon, beaucoup d'ouvriers britanniques vont passer la Manche clandestinement avec leur métier bobin qu'ils arrivent à transporter en pièces détachées. Ils vont alors coloniser les villes du nord de la France et vont ainsi apporter avec eux leur savoir-faire. Les mulquiniers, des tisserands de la région de Cambrai, vont alors être les premiers à s'emparer de cette nouvelle technique. En effet, si depuis le Moyen-Âge, ils se sont spécialisés dans le tissage de toiles de lin extrêmement fines qu'ils exportent dans toute l'Europe, les mulquiniers sont en grande difficulté après la Révolution et ils cherchent à reconvertir leurs activités. Ils vont ainsi se tourner vers la fabrication de tulle et seront vite suivis par d'autres villes du Nord comme Valenciennes, Calais, Lille, Saint-Quentin et Caudry, où se développent d'importants centres tulliers. Cependant, la véritable révolution industrielle qui va asseoir la prospérité de la région pour des décennies va venir d'une double invention. Celle du métier Leavers d'abord, en 1813-1814, alors Leavers ça s'écrit L-E-A-V-E-R-S. En Angleterre, John Leavers, donc L-E-V-E-R-S, le A sera ajouté par les Français, eh bien John Leavers réussit en effet à améliorer le métier bobin créé par Heathcoat afin de reproduire la torsion des fils et le geste des dentelières pour créer mécaniquement une dentelle fine et précise, semblable à celle réalisée jusqu'alors par les mains humaines. Mais, et c'est encore plus essentiel pour l'avenir de la dentelle française, cette innovation de John Leavers va être améliorée par celle des ingénieurs Jourdan et Ferguson. En 1838, ces derniers, installés à Cambrai, vont réussir à combiner deux techniques existantes, le métier Leavers et la mécanique Jacquard, pour permettre la réalisation en simultané du tulle, qui servira de fond à la dentelle, et des motifs complexes qui en feront un textile fin, sophistiqué, résistant et infiniment créatif. Alors avant de poursuivre, petit point technique ici aussi, qu'appelle-t-on la mécanique Jacquard? Alors, la mécanique Jacquard permet de remplacer et reproduire mécaniquement le travail de l'ouvrier tisseur. Selon le dessin à réaliser, ce dernier devait en effet actionner manuellement chaque corde du métier à un moment précis afin de soulever les fils de chaîne et de laisser ainsi passer les fils de trame qui devaient composer la structure du tissu et le motif final. Désormais, à l'image d'un code informatique d'aujourd'hui, les dessins sont codés sur des cartons percés selon un principe binaire de trous et de pleins, un peu comme sur les orgues de Barbarie pour la musique si vous voulez. Reliés entre eux pour définir le dessin final, et grâce à un système complexe d'aiguilles et de bandes, les cartons dictent ainsi à la machine le mouvement des bobines, des peignes et des fils qui vont permettre une production plus rapide de tissus complexes. Si le principe de la mécanique Jacquard existe en France depuis 1745, c'est en réalité l'ingénieur lyonnais Joseph-Marie Jacquard qui va le perfectionner à partir de 1801 et qui va lui donner son nom. Il va le perfectionner donc et il va surtout le diffuser de manière industrielle grâce au soutien financier de Napoléon Ier. Cette invention va susciter cependant de nombreuses contestations sociales puisqu'elle va prendre une partie du travail des ouvriers du textile. Ainsi, dans les années 1830-1840, on va connaître plusieurs révoltes, notamment à Lyon, les révoltes des Canuts, ces célèbres soyeux lyonnais, qui ont donc vu la destruction de certains de leurs emplois et qui vont donc détruire eux aussi de nombreux métiers jacquard. Quoi qu'il en soit, cette invention va révolutionner l'industrie textile française et mondiale. Alors, revenons maintenant à la dentelle. Les nouveaux métiers Leavers, augmentés de la mécanique Jacquard, vont faire la richesse et la renommée des industries dentelières du nord de la France jusqu'à aujourd'hui où, bien que réduite après une succession de crises conjoncturelles et structurelles, la fabrication de dentelles Leavers françaises s'exporte toujours aux quatre coins du monde. Bien entendu, il existe d'autres types de dentelles mécaniques qui vont venir concurrencer la dentelle Leavers et parmi les principales, on recense d'abord la dentelle Rachel. La dentelle Rachel qui est née dans les années 1950 en Allemagne et qui, elle, n'est pas tissée mais tricotée. En effet, brodés sur un fond de tulle en maille, les motifs qui sont plats réussissent à imiter ceux réalisés par les métiers Leavers, mais avec une qualité et une résistance bien moindres. En effet, parce qu'elle est tricotée et non tissée, la dentelle Rachel est plus fragile. On a d'ailleurs tous déjà fait cette expérience. Lorsque l'on coupe le fil d'un pull ou d'une maille tricotée, l'ensemble risque de se déstructurer, contrairement au tissu plus solide qui peut être coupé sans se décomposer. Moins cher à produire, ce type de dentelle, la dentelle Rachel, se retrouve ainsi dans beaucoup de vêtements moyens ou bas de gamme. Ensuite, à côté de la dentelle Rachel, on va trouver la dentelle Jacquard. Celle-ci est moins délicate, plutôt épaisse, et elle propose des dessins plus simples, avec des coûts de production également plus faibles, donc adaptés à des marchés plus larges. Quoi qu'il en soit, ces types de dentelles, moins chères que la dentelle Leavers, sont aussi moins qualitatives et moins créatives. En effet, leur technique de production, certes moins onéreuse, ne permet pas de réaliser des textiles à la fois solides et délicats. Par ailleurs, d'un point de vue éthique, elles sont bien souvent fabriquées dans des destinations extra-européennes ou portées par une très faible protection sociale, le coût de la main-d'œuvre est bien plus bas qu'en Europe ou dans le nord de la France. Ainsi, bien que défiées par cette concurrence internationale, les dentelles Leavers françaises, produites majoritairement à Calais et Caudry, restent premières sur les marchés de la mode créative haut de gamme. Si Calais produit principalement des bandes de dentelles sophistiquées pour la lingerie et la corsetterie, Caudry est plus particulièrement spécialisée dans la fabrication de dentelles pour le vêtement féminin, la robe du soir, de haute couture ou de mariée, grâce à ses métiers Leavers de grande largeur. Mais le plus simple pour se rendre compte de la richesse de ce patrimoine industriel reste de visiter le musée des dentelles et broderies de la ville, où je vous invite à me suivre dès maintenant. Comme je vous le disais, le musée des dentelles et broderies de Caudry est situé dans une ancienne usine de fabrication de dentelles Leavers datant de la fin du 19e siècle. Ce musée atypique présente de manière pédagogique l'histoire et les techniques dentelières qui ont fait la prospérité et la réputation de la ville. Avant de pénétrer dans les salles où sont exposés les outils industriels et où un ancien tulliste, soit un ouvrier de la dentelle, explique les procédés de fabrication de la dentelle Leavers, la visite débute par un film d'introduction reprenant les grandes étapes de l'histoire industrielle et dentelière de Caudry. Je vous propose donc de commencer, nous aussi, par ce point de vue historique. Comme nous l'avons vu précédemment, un réseau de tulliers se développe dans le nord de la France au début du 19e siècle. Caudry n'échappe pas à cette révolution industrielle et la ville va d'abord se spécialiser dans la fabrication de tulle de coton, comptant déjà en 1827 25 fabriques et 220 métiers de tulle bobin, avant de se spécialiser dans la dentelle Leavers dès l'arrivée du premier métier dédié en 1840. Cependant, il faut attendre les années 1880 pour que le bassin caudrésien connaisse un réel essor. Alors que l'utilisation de la dentelle gagne toutes les couches de la société et que les nouveaux modes de financement à crédit permettent d'investir dans le matériel et les innovations, les industries dentelières fleurissent à Caudry. La ville s'agrandit, redessinant ses rues et ses infrastructures, elle prospère, créant de nombreux emplois, et les grandes maisons de maître s'élèvent en même temps que poussent les corons, vous savez, ces habitations ouvrières typiques en briques rouges. D'ailleurs, si vous venez à Caudry, vous ne pourrez pas manquer de remarquer cette architecture urbaine qui témoigne encore du passé industriel de la ville. Dès la fin du 19e siècle, la dentelle de Caudry se forge ainsi une véritable réputation internationale et commence à s'exporter dans le monde entier. C'est à cette époque que les industriels de la ville se différencient, se diversifient, en ajoutant au savoir-faire des denteliers ceux des brodeuses. L'une des particularités de Caudry devient alors l'ennoblissement de la dentelle par la broderie mécanique. À l'aube de la Première Guerre mondiale, on dénombre ainsi 177 fabricants, 600 métiers de dentelle Leavers, 550 métiers de tulle bobin et 630 métiers pour la broderie. La ville de Caudry, quant à elle, est dépassée en un siècle entre 1804 et 1904, de 1926 habitants à 13 000. Par ailleurs, l'apparition de la haute couture dans les années 1880 et son avènement pendant la Belle Époque vont servir les denteliers qui, portés par une demande croissante de nouveautés, vont développer leur créativité et proposer une multiplicité de motifs et dessins artistiques aux accents tantôt abstraits, tantôt figuratifs. Mais cette période de prospérité ne va pas durer. Les conséquences de la Grande Guerre sont en effet désastreuses pour l'industrie dentelière caudrésienne. La ville est envahie, les métiers sont détruits et les usines sont pillées. Cependant, il en faut plus pour anéantir des décennies de développement. Ainsi, si dans un premier temps ces drames affaiblissent les industriels, Caudry va finir par se relever et à renforcer son identité dentelière. Grâce aux indemnisations reçues en contrepartie des dommages de la guerre, les industries caudrésiennes se reconstruisent, se modernisent et investissent dans de nouveaux métiers Leavers plus longs, adapté à ce qui sera désormais la particularité de la dentelle de Caudry, la fabrication de grandes laies de dentelle pour la robe haute couture et l'ameublement, là où Calais continuera de produire, donc comme je le disais, de bandes pour la lingerie. Les années 1920 sont ainsi riches de créativité. Les denteliers caudrésiens se réinventent et s'adaptent pour proposer de nouveaux motifs en lien avec les tendances des couturiers parisiens comme Jacques Doucet ou Paul Poiret, et la dentelle se fait lamée, exotique ou encore géométrique. J'ai eu la chance d'accéder à quelques archives de l'époque avec des motifs originaux sublimes et aux accents art déco, comme cette magnifique pièce de dentelle représentant les principaux monuments de Paris créés en 1925, ou ce précieux carnet d'échantillonnage des années 1920-1930. Et je dois dire qu'en voyant la richesse et la sophistication des propositions, on comprend comment la dentelle de Caudry a réussi à se démarquer. Par la suite, traversant les épreuves, de la grande crise des années 1930 successives au krach boursier de Wall Street en 1929, aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale, la dentelle de Caudry saura conserver sa notoriété dans l'adversité. Et alors, bien que ses effectifs se soient réduits, dans les années 50 et 60, l'industrie caudrésienne continuera à collaborer avec les nouveaux couturiers de l'époque, de Dior à Saint-Laurent, en passant par Chanel, Balenciaga ou Givenchy. C'est aussi à cette époque que les industriels diversifient les matières avec lesquelles ils réalisent la dentelle. Du coton, de la soie ou du lin, on va passer à la rayonne, au nylon ou au lurex. Et face aux innovations techniques de régions ou pays concurrents qui proposent désormais de la dentelle à bas prix, la dentelle Livers de Caudry garde le cap grâce à une qualité et une créativité inégalées. Enfin, si les années 1970 sont particulièrement compliquées pour la dentelle, les années 80, 90 et 2000 vont marquer le retour de son utilisation dans les collections des couturiers, mais aussi par les maisons de prêt-à-porter de luxe qui émergent. La dentelle se fait alors ultra créative, innovante aussi, avec des ennoblissements inattendus ou des emplois parfois habilement détournés dans une approche à la fois couture et extrêmement moderne. Aujourd'hui, la dentelle de Caudry ne cesse de se réinventer grâce aux dessinateurs et aux industriels qui continuent à innover, tout en perpétuant des savoir-faire traditionnels uniques qui confèrent à leur dentelle une finesse et une transparence exceptionnelles. Les motifs se font à la fois contemporains, élégants et raffinés, tandis que les dentelles s'ennoblissent de nouvelles matières, du silicone au PVC, en passant par des enduits métallisés, ou des jeux de contrecollage sur des matières plus techniques. Ainsi, pôle mondial de la dentelle Livers avec Calais, Caudry accueille aujourd'hui encore 6 entreprises dentelières toujours en activité, Jean Braque, Beauvilain d'Avoine, Dark Hermery, Sophie Allette, André Laude et Solstice. Pour répondre aux problématiques d'une concurrence de plus en plus mondialisée, ces industriels peuvent s'appuyer sur le label dentelle de Calais et Caudry, garant d'une origine géographique, d'une qualité, d'une solidité et d'une créativité qui continue de faire toute la différence. Voilà, alors maintenant que vous savez tout de l'histoire de la dentelle Livers de Caudry, il ne reste plus qu'à en comprendre les étapes de fabrication et d'ennoblissement, comme le propose justement et précisément le musée des dentelles et broderies de la ville, à travers l'exposition de machines, mais aussi à travers toute une diversité d'outils pédagogiques. Comme son nom l'indique, la dentelle Livers se fabrique sur un métier Livers, ce métier à tisser spécifiquement créé au 19e siècle, et à partir de dessins originaux, traduits d'un point de vue technique sur des cartons percés qui vont commander la mécanique Jacquard, cette mécanique Jacquard qui, elle, permettra le tissage des motifs dentelier par le métier. Mais avant que la dentelle n'arrive sur nos étals ou dans nos garde-robes, les étapes sont nombreuses. On estime ainsi qu'il faut environ 3 à 6 mois entre l'esquisse et l'expédition du textile fini. On compte alors 4 grandes phases dans la réalisation de la dentelle. La création, soit le dessin, la préparation des fils, soit la mise en œuvre du métier, la fabrication en elle-même sur le métier Livers, soit le tissage, et la finition, c'est-à-dire l'après, l'ennoblissement, la rebroderie ou encore l'enduction. Le musée des dentelles et broderies de Caudry nous éclaire ainsi sur l'ensemble de ce processus, et on s'aperçoit alors combien la fabrication de la dentelle dépend d'une rigoureuse association entre la sensibilité de la main de l'homme et la technicité de la machine. Des techniques et des gestes qui sont appris, transmis et maîtrisés par les tulistes, rebrodeuses et autres ouvriers et ingénieurs qui œuvrent ensemble au bon déroulement de la chaîne de production. Et ainsi, par exemple, pour un tuliste, il faut environ une dizaine d'années d'apprentissage et de pratique avant qu'il puisse gérer en toute autonomie une machine Livers. Alors, première étape de la réalisation d'une dentelle, la création. Au point de départ se trouve en effet le dessinateur. Dans une démarche artistique qui lui est propre, selon ses inspirations du moment, mais aussi en concertation avec les bureaux de création internes ou des cabinets de tendance externes, le dessinateur imagine le motif de la future dentelle, un motif qu'il va ensuite esquisser sur un calque. Celui qu'on appelle le metteur en carte va alors traduire le travail du dessinateur d'un point de vue technique et il va réaliser ce qu'on appelle la mise en carte. Le dessin est agrandi et on indique les mouvements des fils qui sont colorés et numérotés pour permettre une meilleure lisibilité du travail à effectuer. C'est alors qu'intervient le pointeur. Lui, le pointeur, il va reproduire sur un ordinateur, donc évidemment à l'époque c'était pas l'ordinateur, mais enfin maintenant il reproduit sur ordinateur la mise en carte en indiquant sur un barème chiffré les coordonnées de chaque fil pour chaque mouvement du métier. Pour finir cette première étape, le perceur de carton retranscrit le langage chiffré, ce barème chiffré dont on vient de parler. Il va retranscrire ce barème sur des cartons percés qui vont eux commander la machine grâce à la mécanique Jacquard. Alors, si cette étape est aujourd'hui informatisée, sachez qu'elle se faisait autrefois à la main sur un piano à percer. Vous en avez un bel exemplaire au musée, mais aujourd'hui, évidemment, les cartons sont percés informatiquement. Quoi qu'il en soit, les cartons ainsi troués sont assemblés pour constituer la partition finale, si vous voulez, qui va commander le métier Livers. Le mécanisme Jacquard va ainsi lire cette succession de cartons perforés qui vont donc actionner le mouvement des barres qui guident les fils. La deuxième étape, c'est donc la préparation des fils. En effet, plus de 10 000 fils sont placés dans le métier Leavers. Ces fils, qui peuvent être de différentes matières, sont répartis entre des rouleaux situés à l'arrière du métier et 3 000 à 4 500 bobines intégrées dans des chariots à l'intérieur de la machine. Les deux plus gros rouleaux, en bas du métier, contiennent les fils de chaîne qui vont tisser le tulle, soit le fond de la dentelle. Les autres rouleaux sont composés des fils de guimpe qui, eux, vont servir à réaliser les motifs et tous les effets dégradés de la dentelle. Les nombreuses bobines placées sur les chariots vont, quant à elles, permettre de relier les différents fils pour créer le réseau final de cette dentelle. Sachez que lorsque la fabrication de la dentelle est en marche, il faut en moyenne changer les bobines tous les 3 jours. Donc c'est un travail assez fastidieux. Une fois les fils et les bobines mis en place, plusieurs métiers interviennent. Vous avez les détails sur mon site, mais je vous propose de passer directement à la troisième étape, la fabrication en elle-même. Cette étape de la fabrication constitue le cœur de la réalisation de la dentelle, bien sûr, et ici, plusieurs métiers et savoir-faire se succèdent. D'abord, le metteur en œuvre règle le jacquard et prépare les chariots et bobines sur le métier. Puis, entre en scène le tulliste. C'est lui le chef d'orchestre du métier Leavers. Il veille à ce que la dentelle soit parfaitement exécutée, il entretient le métier, en même temps qu'il surveille et renoue les fils cassés. C'est lui aussi qui va intégrer au bon endroit les bons chariots qui contiennent les bobines. Si vous visitez le musée des dentelles et des broderies de Caudry, vous rencontrerez sûrement, comme moi, Roger, un ancien tulliste qui explique aux visiteurs ce métier difficile et de passion qu'il a exercé toute sa vie. Prenez le temps de l'écouter parce qu'on apprend beaucoup avec lui sur les savoir-faire et sur les conditions de travail des ouvriers dentelier. Une fois lancé, le métier Leavers reproduit mécaniquement les gestes des dentelières. Là aussi, pour tous les détails, je vous donne rendez-vous sur lescarnetsdigor.fr ou directement au musée de Caudry, bien sûr. Enfin, la quatrième étape est celle des finitions. Une fois réalisées sur le métier Leavers, les pièces de dentelle font entre 11 et 22 mètres de long sur 5 mètres de large. Le tissage et la solidité des dentelles Leavers permet ensuite de les couper en fonction des besoins des clients ou en fonction de la destination produit, par exemple 90 cm de large pour une robe. La dentelle tout juste fabriquée est observée puis réparée à la main par celle qu'on appelle la raccommodeuse à l'écru avant d'être prise en charge par le coloriste qui lui va la nettoyer, la blanchir, c'est-à-dire la rendre apte à être teinte, et l'apprêter en lui appliquant, selon les besoins, un traitement mécanique ou chimique qui peut modifier son toucher, son tombé ou son aspect visuel. Le coloriste va ensuite la préformer, la sécher et la teindre. Une nouvelle fois contrôlée et retouchée par la raccommodeuse à l'après, la dentelle passe aux mains de la découpeuse qui coupe les fils flottants, de l'effileuse qui tire les fils de jonction et de l'écailleuse qui va découper la dentelle en suivant le contour des écailles. Alors les écailles, ce sont ces formes arrondies que l'on voit sur les bordures de la dentelle Leavers. Ces formes qui vont décorer les extrémités donc, mais elles vont aussi permettre d'indiquer le sens du motif. Bref, la dentelle ainsi préparée peut être ennoblie. Cet ennoblissement, qui vise à renforcer la créativité et l'unicité d'une dentelle, peut prendre une large diversité de formes. La dentelle peut ainsi être calandrée. Alors le calandrage consiste à lustrer la dentelle en la passant dans deux cylindres chauffés. Elle peut être aussi cette dentelle imprimée, métallisée, floquée. Alors floquée, c'est-à-dire qu'on peut y projeter et coller des fibres de textile à certains endroits pour donner parfois un aspect un peu plus velours. Ou encore, elle peut être enduite de nouvelles matières comme le silicone. Mais cette dentelle, elle peut aussi et surtout être rebrodée. C'est le cas à Caudry où la rebroderie de la dentelle est une véritable marque de fabrique et l'un des savoir-faire qui a fait la renommée de la ville. Ainsi, la rebrodeuse peut ennoblir la dentelle en rehaussant certains motifs grâce à des paillettes, des lacets, des fils métalliques ou encore des rubans. Et pour ce faire, la rebrodeuse travaille sur une machine Cornely, inventée par l'ingénieur Émile Cornely en 1865, Cornely C-O-R-N-E-L-Y, ou sur une machine Bérou, imaginée par les établissements Bérou à Paris à la fin du 19e siècle. Alors, comme je vous en parlais plus tôt, lors de ma visite du musée des dentelles et broderies de Caudry, j'ai eu la chance d'interviewer l'une de ses anciennes rebrodeuses, Renée Pierrard. Aujourd'hui, Renée est démonstratrice du musée, mais elle a pratiqué ce métier toute sa vie depuis l'âge de 14 ans, et donc je vous propose sans plus attendre de l'écouter nous raconter son histoire et son métier passion. Bonjour Renée, vous êtes rebrodeuse et démonstratrice ici au musée de la dentelle de Caudry, un métier que vous maîtrisez et que vous exercez depuis des années. Avant d'en savoir plus sur ce métier et sur vos savoir-faire, j'aurais aimé que vous nous en disiez un peu plus sur vous-même, parce que je suis certain que les personnes qui nous écoutent auront eux aussi, envie de mieux vous connaître. C'est pourquoi, pour commencer, et si vous le voulez bien, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous nous racontiez avant toute chose votre parcours professionnel. Comment on arrive à être rebrodeuse ?
Oui, ben bonjour, je m'appelle Renée. Bon, j'ai fait toute ma carrière dans la dentelle, forcément. J'ai commencé dès l'âge de 14 ans. Hein. À ce temps-là, c'était Caudry,
Vous
c'était.
êtes né à Caudry, vous êtes des
Oui,
points. Ouais.
je suis née à Cambrai, mais enfin, je suis d'habitation de Caudry. J'ai toujours été caudrésienne.
Très bien.
J'avais mon papa qui était tulliste, donc qui travaillait sur des métiers. Donc, on a baigné dedans tout
Tulliste, je
petit.
rappelle juste, c'est la personne
Qui fabrique la dentelle sur
Voilà.
des métiers livers.
C'est ça. Et
Ouais.
vous, après, vous avez le métier de rebrodeuse que vous allez nous expliquer un peu plus
Voilà.
tard, mais voilà, c'est
Oui, pour le moment,
ouvert en tête.
j'ai commencé sur le tas pour tout. Au départ, ben, c'était le raccommodage. On nous apprenait sur le tas, raccommodage, finition. Et voilà, c'était comme ça, quoi.
Dans la même entreprise toujours ou est-ce que c'était...
Toujours dans
Voilà,
la même.
toujours.
J'ai travaillé, passé 40 ans dans la même entreprise.
Super. D'accord. Et donc vous avez commencé à 14 ans, c'est ça, à un moment donné.
Ouais, ouais. Ouais, et oui, ouais. J'ai arrêté en juin l'école, en juillet je travaillais, hein. Ça
Oui, c'est ça.
c'est,
Ouais. Et
ça
après, vous
c'est.
avez donc au début c'était raccommodage, et puis après vous avez appris le métier de rebrodeuse, c'est ça, et
Oh, il
voilà.
a fallu attendre après une vingtaine d'années,
Ah oui,
hein.
d'accord.
J'ai pas appris tout de suite. Au départ, bon, ça marchait très bien la dentelle, c'était plutôt les mantilles qui marchaient très bien.
Oui, d'accord.
Donc on avait très extrêmement beaucoup de travail. Donc, il fallait visiter, il fallait raccommoder, il fallait cahier. Enfin, franchement, on apprenait tout sur le tas ce temps-là.
C'est
C'était
ça.
bien.
Et ensuite, donc, au bout d'une vingtaine d'années, vous êtes devenue
Voilà,
rebrodeuse.
ouais, voilà. Mon patron m'a demandé si ça m'intéressait d'aller apprendre la machine Cornélie, rebroderie. Donc, ben, je suis allée sur Paris à faire plusieurs fois. Et là, j'ai vraiment appris ce que le mécanisme de la machine, l'apprendre à monter, démonter mes pièces.
Oui, parce que c'est ça, il faut savoir aussi connaître la machine, la
Oui,
monter, la
parce
démonter avant de...
que ben, il y a, d'après les matières, c'est des guides différents, c'est des réglages différents. Donc, je n'ai appris que ça, à monter, démonter mes pièces pour des réglages.
Donc avant même d'être dans la création, on va dire, il y a la mécanique en fait.
Oui,
Oui,
ça c'est
c'est ça.
très important, la mécanique,
Bien sûr.
parce qu'il faut savoir régler ses guides pour les matières différentes à poser sur la dentelle.
Oui, bien sûr.
Parce que comme la paillette, il faut que ce soit posé au millimètre. Parce que si c'est le guide n'est pas bien posé, soit que le fil va venir passer au-dessus de la paillette, ou ça ne va pas du tout piquer. Donc c'est franchement, c'est un calcul au millimètre.
Donc tout commence par déjà connaître la machine.
Ouais.
Ensuite, une fois que vous avez maîtrisé
La
la
machine,
machine, il faut apprendre à s'en servir.
voilà, quand je suis rentrée en entreprise, il a fallu que je me débrouille pour la création des dessins. Parce qu'on ne peut pas commencer comme ça, un dessin sur une dentelle, sans calculer avant son passage.
Oui, alors justement, on va maintenant parler peut-être plus de ce métier, le métier de rebrodeuse
Ouais.
que vous avez exercé donc pendant plus de 20 ans, du coup, j'imagine, puisque c'était
Ben,
oui,
ouais, une quarantaine d'années,
quarantaine d'années,
quoi.
voilà. Donc, justement, donc, en quoi est-ce que ça consiste? Parce que je pense que les gens connaissent effectivement le métier de tulliste sans le savoir, en se disant, bon, voilà,
Voilà.
on crée la dentelle, en fait, on tisse, je sais pas comment, non, on tricote la dentelle, je sais pas.
Non, on tricote pas,
Non, mais c'est,
c'est
oui.
on fabrique.
On
On
fabrique la dentelle,
fabrique,
voilà. Pardon, on fabrique la...
c'est le métier qui fabrique, hein.
Voilà, on fabrique la dentelle et ensuite, une fois que cette dentelle est créée avec des dessins, des motifs,
Voilà.
la rebrodeuse peut repasser par-dessus pour l'embellir,
Voilà.
l'ennoblir, comme on dit.
Oui. Après plusieurs étapes, parce que nous, on est vraiment la finition, hein.
D'accord.
Parce que là, une pièce qui est sortie du métier, et elle est déjà vérifiée, raccommodée. Donc après, c'est seulement partie en teinture.
Ah oui, donc ça part en teinture d'abord et
C'est
ensuite...
lavé, c'est des coloris que le client demande, qu'il faut vraiment respecter la teinte que le client demande.
Oui, c'est ça.
Donc après, c'est cadré, c'est séché, cadré pour que ce soit la bonne dimension.
Ah oui, vous vous récupérez quand vous êtes rebrodeuse, vous récupérez tout
Après,
ça.
ça revient seulement, c'est seulement divisé. Les coupes, c'est divisé par coupe et c'est encore vérifié, voir si en teinture, ils n'ont pas fait de trou.
Ça, divisé par coupe, c'est-à-dire pour correspondre
Voilà,
à la demande, quoi.
ça fait des coupes de 4-5 mètres sur 90.
Oui.
Disons que sur une pièce de dentelle, vous avez une vingtaine de coupes. Donc, c'est à diviser écaillé, parce que vous avez des écailles de chaque...
Écaillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire...
C'est les écailles qu'il y a de chaque côté des coupes.
Ah d'accord, ok.
Hein, ça fait des écailles aux finitions,
oui,
disons.
Oui, bien sûr, d'accord. Pour
la finition des dentelles. Donc là, à partir de là, c'est écaillé. Et seulement après, ça vient en enrobissement. Nous, on fait vraiment, ça vient à la toute dernière...
C'est vraiment la dernière étape.
Dernière
pour,
étape.
Ennoblir, hein, c'est bien ce que
voilà,
vous dites.
Voilà, oui,
façon,
oui.
Le tissu ou là, la dentelle.
La dentelle, oui, oui, oui.
Et donc là, quand vous recevez cette dentelle à ennoblir, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le dessin, vous observez?
Voilà, oui. De toute façon, je fais déjà des prototypes de broderie. Après, c'est pas dit que le client va accepter ce que je vais faire. Mais le commercial va partir et présenter tous les échantillons que j'ai faits, plus ou moins, sur des dentelles même, différentes.
Oui, donc vous avez quand même ce rôle d'imaginer ce qu'on peut faire avec cette dentelle qui se présente à vous. Comment je peux l'ennoblir, quoi?
Oui, voilà. Oui, selon les matières... Bon, et puis la tendance aussi, hein, oui, les tendances de coloris, de matière.
Et... Oui, peut-être même un brief peut-être du client, j'en sais rien, qui dit je veux ce type de dessin.
Voilà.
Mais disons que vous, après vous interprétez, vous proposez différents échantillons avec différents dessins. Et ensuite, une fois que c'est choisi, là, on rentre dans le dur.
Dans le dur, voilà.
Et dans la production.
Donc, oui. Donc, je n'ai pas fini non plus... Quand je suis revenue d'avoir appris mes réglages, oui. Je suis rentrée en entreprise, il a fallu j'ai appris toute seule à créer mes dessins. J'apprenais directement sur ma dentelle, des petits morceaux de dentelle. Je faisais mes passages pour voir si ça allait aller. Parce qu'il faut, c'est une technique qu'il faut quand même savoir, que quand je crée mes dessins, il ne faut pas que ça se voie que je fais un aller et un retour. Donc, il faut que ça, le dessin s'enchevêtre bien l'un dans l'autre.
Soit cohérent, harmonieux. Et
voilà.
Pas les,
et tout, reproduire toujours la même chose d'un passage à un autre.
Oui, c'est ça en plus.
Donc, vous savez que la première coupe que j'ai faite, j'ai mis une semaine complète.
Ah oui.
J'ai mis 40 heures. Mais,
bah, normal, enfin, je veux dire.
Normal. Moi, je suis une autodidacte. Hein, j'ai appris toute seule. En oui. tout, j'ai appris toute seule. Aussi bien la création de mes dessins, je n'ai pas été à l'école, j'ai appris toute seule. Et ensuite, pour broder.
En fait, c'est l'expérience, c'est le travail, c'est
voilà.
la force de
et,
faire.
Et c'est surtout aimer.
Alors, en plus, c'est ça, oui, bien sûr. Parce que c'est un métier de passion, finalement.
De passion. Oui.
Que ce métier de rebrodeuse. Moi, je vous ai vu à l'œuvre tout à l'heure, effectivement. Oh. Vous allez très vite.
Ah oui, bah oui.
Mais.
J'imagine. Oui, oui, ça c'est une passion, vous savez, j'ai quand même travaillé 40 ans dans les mêmes entreprises et ça fait passé 20 ans, je suis bénévole au musée. Hein.
Oui, c'est ça, donc vous avez travaillé 20 ans et maintenant vous revenez parce que c'est vraiment…
Même du temps où je travaillais en entreprise, je venais faire des démonstrations ici.
Ah,
hein. Ça c'est vraiment un métier passion pour pouvoir venir comme ça.
Oui, c'est sûr, c'est sûr, pour revenir.
Il faut aimer ce qu'on fait.
Parce là, donc que... maintenant, vous me disiez tout à l'heure, pour finir sur le métier justement en lui-même, pour broder un pan de dentelle donc, qui fait, vous m'avez dit, entre 4 mètres.
4-5 mètres sur 90 de large, maintenant une petite journée.
Une petite journée, ça va, oui. Parce que vous avez l'expérience. C'est ça, mais c'est là où, à l'époque, vous avez mis une
j'ai mis 40 heures.
Ah oui, comme quoi, l'expérience
bah oui. Bah oui, oui, bah là, après, c'est tout. Mais enfin, c'est quand même... Pour des filles à qui j'ai apprise, c'était pas toujours évident parce que c'est toujours un autre dessin qu'il faut apprendre. On ne fait pas toujours le même dessin. Donc la fille, il faut qu'elle repère son dessin et c'est pas toujours pratique. Hein. Oui. Moi, je sais qu'une fille que j'ai apprise, fallait au moins attendre 2 ans pour qu'elle soit vraiment bien autonome. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est des formations qui sont longues, hein, toujours. De toute façon,
ah,
tous
oui,
ces
oui.
métiers de savoir-faire comme ça, traditionnels, ou en
oui.
tout cas...
Il n'y a que des droitières qui puissent travailler sur ces
ça,
machines.
C'est incroyable, c'est que ces machines, donc Corneli, c'est ça, hein,
ouais.
Y a une petite manette
en dessous
qui permet de tourner.
Voilà, et il n'y a que la main droite qui peut tourner, donc des gauchères, bon. C'est pas possible.
Bon, bah, ça c'est comme ça, elles feront autre chose, tant pis.
Voilà.
Mais c'est dommage. D'accord, et donc non, c'est très intéressant. Et maintenant, du coup, je vais peut-être vous poser des questions un peu plus personnelles justement sur ce métier. Vous avez commencé à me dire que c'était un métier passion, effectivement. Ça
Ouais.
se voit quand on vous voit faire et quand on vous entend. Déjà, sur ce métier, qu'est-ce qui vous passionne le plus justement? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est plus qu'un métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est le geste? Est-ce que c'est...
Je pense que c'est l'ensemble. Et puis, vous savez, quand je suis ici, je fais des démonstrations, je vois les personnes qui sont vraiment très émerveillées
Oui.
et qui ne connaissent pas justement ça. Parce que beaucoup de personnes me disent, oh, mais moi, je pose la paillette à la main. Ben oui, mais bon, c'est ça, c'est comme ça.
Ouais, c'est ça.
Mais faut, comme j'ai dit, c'est un métier passion. J'adore faire ce que je fais. J'adore faire voir aux personnes
Oui, puis en plus,
tout ce.
c'est un métier où finalement, vous ajoutez la touche finale à
Voilà.
un produit qui va ensuite être porté plus tard, enfin qui va être
Bah
travaillé par
oui.
le couturier. Mais disons que voilà, vous avez une dentelle qui est déjà en soi super, enfin, très très
Oui,
belle, etc.
oui.
Mais vous rajoutez la touche qui va la capter.
Voilà, on vient l'en oublier
Voilà, qui va.
avec des tendances différentes
Bien sûr.
selon les temps, les couleurs. Voilà.
Et alors justement, puisqu'on parle de différents types de produits qu'on peut obtenir à la fin, est-ce que dans votre carrière, il y a un produit ou un type de produit que vous avez préféré faire ou même un produit que vous auriez fait, peut-être une pièce pour un client particulier ou quelque chose voilà, qui vous a particulièrement
Bah, vous
marqué?
savez, on a quand même travaillé tous les pour les grands couturiers.
Oui,
On
c'est vrai.
ne sait pas toujours où ça part aussi. Voilà.
Est-ce que vous avez la surprise des fois justement de
Oui.
voir sur le défilé ou ailleurs
Ah oui, ça arrive, oui, qu'on voit plus sur des catalogues,
Oui,
qu'on
bon voilà.
arrive à mieux voir.
Bien
Bon,
sûr.
c'est sûr que
Vous reconnaissez en tout cas, hein. Vous allez
oui.
reconnaître votre travail tout de
Oh,
suite, oui.
et on sait reconnaître notre dentelle.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est
Parce
intéressant.
que chaque dentelier a sa dentelle. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, moi, je sais que j'ai travaillé avec Christian Lacroix. J'ai fait pas mal de modèles pour des couturiers. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas dit qu'on savait toujours où est-ce que ça partait.
Non, bien sûr, bien sûr.
Je sais que j'ai fait une création aussi en paillettes. C'était pour quand Adriana Carambeu s'est mariée.
Oui, voilà, ça vous l'avez su qu'après,
Donc
j'imagine.
là, on a su que c'était pour le Escada.
Oui,
C'était
d'accord.
Escada qui nous avait fait la commande, mais c'était pour Adriana Carambeu.
Et ça, vous l'avez vu après, quand vous avez vu la
Après,
robe, quoi. Voilà, ouais, c'est ça.
voilà.
Mais ça, c'est bien aussi. Ça doit être assez, on doit être assez fiers de voir que notre travail, il a
Ah
servi.
oui, ben, quand on voit, oui, c'est sûr qu'on est fier. Parce que, en plus, moi, je suis d'autant plus fière que
J'imagine.
je me suis débrouillée toute seule, quoi. J'ai fait tout, je suis une autodidacte. J'ai vraiment appris
Oui, c'est
tout,
ça.
toute seule.
Et ça, comment vous voyez est-ce que le métier de rebrodeuse comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent? Comment c'est
Bah,
compliqué?
je ne pense pas, hein. Je ne pense
Non.
pas, non. Je pense que c'est un métier, un jour ou l'autre, qui va disparaître.
Parce qu'il y a des alternatives, j'imagine, industrielles, c'est ça?
C'est-à-dire que c'est ça, c'est le problème, c'est ça. Bon, peut-être qu'il y a des créations et qu'après, c'est peut-être fait à l'étranger. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais c'est possible.
Après, il y a la haute couture
Parce
et
qu'il
moderne.
n'y a plus beaucoup de personnes que j'entends qui sont brodeuses cornélie, hein.
C'est ça, parce qu'il y a effectivement toujours de la broderie faite main, mais plus pour la haute couture, où là c'est vraiment fait main dans les
Oui, là,
ateliers. Mais
oui.
là, on était sur plus du prêt-à-porter de luxe finalement, parce qu'on
Ouais.
peut quand même produire en
Oh,
quantité
et puis, c'est selon
plus
la
grande.
mode aussi,
Bien
hein.
sûr.
C'est
Oui,
ça
alors il y a ça
aussi.
aussi. C'est vrai que la dentelle,
Il y a des hauts, des bas, hein. Il y a plus de bas que de hauts en ce moment. Hein.
Oui, d'accord. Bon, on espère en tout cas que. À travers votre exemple, peut-être qu'on aura
Ben
des
oui, il faut venir
vocations.
voir, c'est très
Déjà, il faut venir voir,
intéressant.
ça c'est sûr. Il
Beaucoup.
faut venir voir au musée, il faut venir voir la démonstration.
Plusieurs, il n'y a pas que la broderie Cornélie, il y a toute autre chose, une très jolie exposition à l'étage. Il y a la fabrication de la dentelle sur un métier Livers avec un tuiliste.
Tout à fait.
Il y a plein de choses à découvrir au niveau du musée. Hein.
Eh bien, merci beaucoup, René, pour votre temps et vos
Ben, de
explications.
rien, je suis très heureuse d'avoir participé à ce petit interview.
Eh bien, avec plaisir. Je suis certain en tout cas que ces quelques minutes d'échange passionnants vont donner envie aux amoureux de la culture, de patrimoine et de mode aussi,
Bah
de
oui.
venir explorer ce musée de la dentelle de Caudry. Ils auront peut-être la chance de vous rencontrer à ce moment-là et peut-être d'assister à une
Peut-être.
démonstration puisque
Oui.
vous êtes régulièrement ici.
Oui, faut demander. Si vous voulez me voir, faut
Ah, faut
demander.
appeler avant.
Faut
Voilà.
prévoir. En téléphonant, vous demandez si la brodeuse est là.
Et ben voilà,
Et
vous
je
savez.
serai
Voilà.
toujours disponible encore.
Eh bien, super, il faudra faire ça. Alors, du coup, comme, réserver le temps de René, parce que c'est vraiment passionnant de voir que vous nous partagiez voilà, votre amour pour ce métier.
Merci beaucoup aussi.
Au revoir.
Voilà, alors après ces échanges passionnants, je vous propose de poursuivre sur les dernières étapes de la réalisation de notre dentelle. Après l'ennoblissement et l'éventuelle rebroderie de la dentelle, c'est à la plieuse d'entrer en jeu. Cette dernière, la plieuse, va organiser les pans de dentelle pour les présenter aux clients, tandis que l'échantillonneuse va préparer les échantillons, ces échantillons qui serviront aux commerciaux pour vendre les créations dentelières aux plus grandes marques et créateurs de mode. Le reste n'est plus du ressort du fabricant. Les maisons de couture, de luxe ou de prêt-à-porter vont s'emparer de la dentelle pour l'interpréter et l'intégrer dans leur propre collection créative. Voilà, ma visite du musée des dentelles et broderies de Caudry s'arrête ici. Comme vous le savez, la France est un pays de mode et de création, et l'histoire de la dentelle, au-delà d'être passionnante, fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et collectif. Précieux témoignage des savoir-faire et des métiers d'art textile français, la dentelle Leavers de Caudry est elle aussi riche d'une histoire à la fois industrielle, créative, sociale et humaine que l'on n'imagine pas au premier abord, et le musée des dentelles et broderies de Caudry permet ainsi d'en explorer tous les ressorts, depuis ses origines jusqu'à ses développements les plus contemporains. Pour ma part, ayant longtemps travaillé dans le secteur de la mode, et en particulier celui de l'industrie textile, la dentelle de Caudry ne m'était pas étrangère. Cependant, avant de visiter le musée des dentelles et broderies de Caudry, je n'imaginais pas la complexité de sa fabrication, la richesse de ses savoir-faire et de son patrimoine industriel, comme la profondeur de son histoire ou l'importance de son impact sur le développement de la ville et de la région. D'ailleurs, en cela, le patrimoine architectural et social de la ville parle de lui-même. Je vous recommande donc à la fois de visiter le musée, bien sûr, son parcours historique et ses expositions temporaires, mais aussi la ville, avec son architecture typique du Nord et ses très belles maisons de maître, témoins de la prospérité industrielle passée. Et si vous le pouvez, contactez le musée avant votre visite pour organiser une démonstration avec la pétillante rebrodeuse Renée Pierrard. Si elle le peut, elle se fera un plaisir de vous parler avec passion du métier de sa vie. Voilà, j'espère que ce podcast autour de l'histoire de la dentelle française, et en particulier de la dentelle Leavers du Nord de la France, vous a intéressé. J'espère aussi qu'il vous aura donné envie de visiter le musée des dentelles et broderies de Caudry. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette visite. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, mais aussi diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la Lettre des Carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.